Les sociologues, les médias, les citoyens, la société en parlent. À quand les égalités scolaires en Belgique? Le test PISA le montre. C'est bien chez nous que les inégalités scolaires sont les plus importantes d'Europe. En effet, l'écart est drastique entre les élèves les plus faibles et les plus forts. Pourquoi? Quelles en sont les causes? Comment les jeunes réagissent-ils face à ces inégalités? C'est notre débat du jour. Avec nous aujourd'hui, Monia Gandibleu. Bonjour Monia, pouvez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle donc Monia Gandibleu, je suis à mi-temps chef d'atelier dans une école qualifiante à Bruxelles, à Isère, chaussée d'Anvers. Et l'autre mi-temps, je le mène pour travailler avec différents jeunes, 40 jeunes, au sein d'une association qu'on a fondée, qui s'appelle le MIEC Jeunesse, qui a pour but de valoriser les minorités et essentiellement donner la parole, donner des outils pour améliorer le cri qu'ils ont en eux et la manière dont ils auraient envie de l'exprimer.
Merci Monia, nous reviendrons très vite vers vous. Pour ce débat, nous sommes allés à la rencontre de professeurs et surtout de jeunes, trois classes de secondaire dans deux écoles différentes. Ils nous ont donné leur avis quant au système scolaire actuel. Je tiens à préciser que par inégalité scolaire, on entend qu'elle est mesurée à partir de l'origine sociale et des résultats obtenus lors des tests des élèves. Ici, nous considérons un pays ou une école comme inégalitaire quand l'origine sociale influence les résultats à l'école. Tout de suite, je vous propose de les écouter.
Pour l'instant, le système scolaire n'est pas bon. Bien sûr, on va de l'avant, on essaie de faire changer les choses. Il y a les plans de pilotage qui arrivent, il y a un tas de choses qui vont être mises en place. Mais quand on voit un petit peu d'autres sociétés, je pense que voilà, en Belgique, on n'est pas très bien lotis. En Fédération Wallonie-Bruxelles particulièrement, parce que la Flandre est quand même un peu mieux. Et pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont plus de moyens. Donc ce qui nous manque en priorité, je crois, ce sont les moyens.
Donc maintenant, il n'y a plus de redoublement. Et c'est avec le pacte d'excellence, je pense qu'on va faire un tronc commun jusqu'à la troisième générale et on ne pourra plus doubler jusqu'à la troisième générale. Mais maintenant, ce que nous, on observe en troisième générale, c'est que le niveau des élèves est catastrophique parce que de toute façon, on ne peut plus doubler. Donc ce n'est pas grave, je ne fais rien. Et puis après, je me retrouve en troisième.
Mais en fait, pour moi, je trouve qu'on est un peu jeune pour choisir une option parce que la plupart d'entre nous, on sait même pas ce qu'on va vouloir faire par après comme métier. Donc enfin, c'est compliqué de choisir une option. Je trouve que c'est mieux d'avoir plus de temps pour savoir mieux choisir une option pour plus tard.
Donc on manquerait de moyens, on s'y prendrait mal, on devrait supprimer le redoublement. Monia, que feriez-vous? Vous, pour améliorer le système scolaire belge actuel?
Donc une meilleure préparation des profs, vraiment. Et deux, des moyens, des associations, des moyens à faire l'école autrement, vraiment. Et arrêter le redoublement. C'est ridicule.
Donc pour vous, il faudrait le supprimer totalement?
Vas-y, dis-moi, donne-moi une étude qui prouve son efficacité.
Mais si on supprime totalement le redoublement, les élèves seraient tentés de ne rien faire, non?
Tu sais, si c'est le principe aussi de le revenu universel. Oh, si on donne de l'argent à tout le monde, mais alors du coup tout le monde arrête de travailler, ben non, c'est un truc de fou. Peut-être certains, peut-être au début. Mais non, l'être humain aime l'excellence. L'être humain a besoin de se dépasser. Vraiment, un jeune, je vous assure, moi j'ai fait le test la dernière année, je me suis dit, tant pis, je fais de ma classe un labo. Je leur ai dit, il n'y a plus de points, les gars. Je vous corrige, mais je vous mets que des commentaires. Comment ça, il n'y a plus de points? Non, je vous promets. Ils adoraient réussir dans mon cours, genre, ouais, on est les meilleurs, etc. C'était géopolitique, actualité, Sciences Po, enfin, ils adoraient ça. Et je leur dis, non, je ne mets plus de points, je vous mets une information sur ce que vous êtes, ce que vous venez de produire. Ça les a rendus fous. Est-ce qu'ils ont bossé moins? Pas du tout. Ils étaient tellement fiers de bosser pour eux, quoi. Je crois vraiment que c'est comme l'évaluation formative. Ça fait des années qu'on est censé faire des évaluations qui ne valent pas, qui ne comptent pas. Et les profs n'osent pas. Mais si ça ne compte pas, les élèves vont pas étudier. Oui, mais alors ça veut dire qu'il y a un problème dans ton explication. Non, l'être humain aime l'excellence. L'être humain a besoin de se dépasser.
Merci de votre intervention. Mais ils n'ont pas parlé que de redoublement et tronc commun. Ils ont aussi mentionné les différences entre les sections générales, techniques et professionnelles. On les écoute tout de suite.
Moi, je suis en technique sociale. Et je trouve pas que c'est un échec d'être en technique. Enfin, si je voulais, je pouvais très bien aller en général, mais voilà, justement, je voulais pas faire ça. Et je trouve pas que c'est un échec d'être en technique ou bien professionnel. Enfin, voilà. Par exemple, s'il y a pas des boueurs, on va voir. Enfin, tout le monde doit faire chaque métier, quoi. Moi, c'est ce que je veux, technique sociale. J'aime bien ça et je fais ça. C'est pas une obligation d'aller en général, enfin c'est pas aussi un échec d'être en technique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si un élève est pas en technique, enfin que si un élève est pas en général, c'est peut-être qu'il est bête ou bien un truc de ce genre, mais rien à voir. Ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des choix des études, des envies, quoi. Ça dépend de chacun.
Le technique et le professionnel, ça ne me correspond pas, oui, effectivement, parce que au début, d'abord, je croyais que les professionnels, c'était pour les personnes en difficulté, voilà, qui cherchaient directement un métier, qui ne cherchaient pas à travailler. Moi, je suis une fille, voilà, j'aime bien faire des efforts, etc. Je trouve que, ouais, le technique, tu vas en technique quand tu as quelque chose en tête, en fait. Quand tu sais déjà ce que tu vas faire, tu ne vas pas aller en technique animation pour aller devenir prof de maths ou quoi. Pour animer les enfants, par exemple.
C'est pas une question d'intelligence, c'est qu'eux savent déjà ce qu'ils veulent faire précisément. Nous, les élèves, qu'on sait pas trop quoi faire, du coup, on se dirige vers du général. Ceux qui vont en technique, en professionnel, savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils se dirigent vers quelque chose de plus concret, en fait, c'est ça.
Moi, je pense qu'il n'y a pas une question de tu es bon, tu peux aller dans telle option, tu n'es pas bon, tu peux pas aller dans telle option. Parce que c'est un choix, et si on a envie d'aller quelque part, il faut savoir se donner les moyens de pouvoir réussir. Et si on ne se donne pas les moyens de réussir, ben là, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut plus tard, quoi.
C'était les témoignages d'élèves de 3 et 4e secondaire technique et générale. Monia, que pensez-vous de ce qu'ils disent, de ces différences entre technique professionnelle et générale?
Une des choses qui explique, selon moi, les inégalités scolaires en Belgique, ce sont les filières. D'abord parce qu'elles sont dévalorisées. Si vous voulez qu'elles existent, ok, mais alors valorisez-les. Donnez-leur les moyens. Maintenant, la nouvelle mode, c'est de dire « il y a le qualifiant ». Pour ne plus différencier le technique du professionnel. Mais c'est simplement noyer le poisson de nouveau. Donc il y a des jeunes filles qui viennent par exemple du spécialisé en primaire et qu'on a intégrées en secondaire et qui évidemment échouent parce qu'elles ne sont pas suffisamment préparées ou alors elles font des toutes petites premières, des toutes petites deuxièmes et on dit bon, on ne va pas les tirer jusqu'en troisième générale, tchac, professionnel. Ce sont des gamines de 16 ans, 17 ans, elles n'ont absolument pas fait le choix d'être en services sociaux. Ou alors on leur dit oh, mais elle est gentille, elle s'intéresse aux autres. Allez hop, services sociaux. Oui, mais services sociaux, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas que ça, loin de là. Et puis il y a des enfants qui vraiment ont des résultats très faibles et donc on se dit hop, professionnel. Mais quelle image on renvoie? Enfin, je veux dire, ça veut dire que quand t'es intelligent, tu peux pas aller en professionnel, et quand t'es bête, tu dois y être. Mais quelle image on renvoie? C'est simple, le professionnel correspond à des gamins qui ont une intelligence différente, mais pas moindre, différente. Et donc vraiment, ce sont des gens qui sont qualifiés à des postes différents quand tu es en général. Et qu'un élève a difficile, qu'est-ce qu'on dit? On lui donne une AOB, il ira en technique. Ah oui, quand il est en technique, il a difficile, on dit quoi? Ben, il ira en professionnel. Mais quand t'es en professionnel, il y a plus rien. Hein. Il faut le traîner, le gamin, il a 15 ans. Ben, il faut attendre qu'il ait 18 ans pour qu'on lui dise bah, « Écoute, ce serait bien que tu aies une formation. Hein. »
Et donc, ce seraient les professeurs les coupables?
Je pense qu'il y a deux styles de profs, ou en tout cas de pédagogues ou d'éducateurs, puisque pour moi, tout se mélange. Il y a ceux qui ont détesté l'école et qui prennent une sacrée revanche. Et puis, il y a ceux qui ont adoré l'école et qui se disent bah, « Finalement, je change simplement d'école. » Un élève voilà, devient prof et les profs sont aussi de ce type-là. Je préfère travailler avec 1000 jeunes qu'avec 10 adultes, vraiment. C'est terrible, en fait. Ça nous renvoie à un certain fatalisme. Et j'ai chaque fois envie de voir dans un prof qui abandonne, dans un prof qui n'est pas un bon prof, un bon pédagogue, un bon guide, qui n'a pas compris qu'on ne se met pas devant les élèves, mais à côté d'eux, pour les accompagner. On n'est pas là pour être, tu sais, sur une estrade. C'est fini, en fait. Il peut en résider quelques-uns lorsqu'ils sont passionnés, passionnants. Mais si, en plus, ils n'ont pas cette flamme, il faut qu'ils sortent de là, quoi. Ils ne peuvent pas être des modèles, ce n'est pas possible. Puisque pour beaucoup des élèves abîmés par le système scolaire, le professeur reste l'adulte référent. Donc vous imaginez les dégâts lorsque l'adulte est lui-même abîmé. Et ils ont intérêt à avoir une belle carapace, beaucoup d'énergie. Et souvent, ils sont nourris par le retour des élèves ou de la direction. Ou soit c'est des profs qui, vraiment, de toute manière, sont complètement imperméables à ce que tu pourrais amener comme changement. Ils attendent juste la fin de leur carrière. Ils attendent la fin des cours, la fin de la journée, les vacances. Et ils ne comptent qu'en semaines de cours par rapport à celles des semaines des vacances. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, il y a tous ceux qui ne savent pas comment faire. Et ceux-là, tu peux encore travailler avec eux, évidemment.
Merci Monia. Nous avons posé les mêmes questions aux élèves. Et voici ce qu'ils nous ont répondu.
Ben, je trouve que si le prof ne fait rien pour que l'élève réussisse, ben... Enfin, si l'élève fait pour réussir et que le prof le voit mais fait rien, ben là, c'est pas juste et c'est pas logique. Si vous voyez qu'un élève travaille mais il n'y arrive pas, ben le prof va devoir aller vers lui et l'aider. Enfin, je trouve que c'est ce que doit faire un prof. C'est pas que donner son cours et expliquer la matière. Ben non, c'est aller vers l'élève. Et s'il est pas bien ou si on voit qu'il veut mais qu'il n'y arrive pas, ben on doit le tirer vers le haut. Enfin, on doit aussi lui donner envie de continuer ses efforts pour qu'il puisse y arriver à un moment donné. Si vous voyez que votre élève travaille et que vous ne faites rien, ben, à un moment donné, il va tellement être lassé de travailler sans récolter des bons points, ben, il va en avoir tellement marre ben, qu'il va arrêter Et bah là, ça va retomber sur lui, il sera en échec. Et là, ça va être à cause du professeur. Si l'élève ne l'étudie pas, bah donc lui aussi, il doit faire un pas. Enfin, quand le prof, par exemple, le prof voit que son élève ne l'étudie pas, bah premièrement, il va essayer de lui donner envie. Et s'il voit que ça ne fonctionne toujours pas, bah là, c'est en question un peu de la faute de l'élève. Si lui, il ne montre pas qu'il veut, bah on ne peut rien faire pour lui. On veut que tous ces clichés s'arrêtent. C'est les deux groupes de personnes qui doivent travailler et se, on va dire, soutenir pour que ça puisse réussir, parce que sinon, bah, on ne va jamais arriver et ça va partir en guerre. Ou ça va partir. Voilà, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Ça va faire que tourner, tourner, tourner et on ne va jamais s'en sortir. Enfin, ça doit aussi venir de lui. Le prof ne peut pas tout faire tout seul aussi. Les deux doivent donner un peu pour construire quelque chose de meilleur.
Ça n'est pas si différent de ce que vous venez de dire. Il faut vraiment mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des élèves. Mais à les entendre, on a aussi un problème de mixité.
Enfin, il y a des étrangers qui ont de très bons points. C'est aussi un cliché. Mettre tous les étrangers dans le même sac, bah, ça, c'est pas bien aussi. Enfin, faut changer.
Qu'est-ce qui est différent que mon père, il travaille, je sais pas, il est ouvrier et que son père, il est avocat. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va rien changer aux études. De toute façon, c'est moi qui étudie. Il étudie de toute manière. C'est pas les parents, notre origine qui va changer la manière dont on étudie. Si on veut étudier, on étudie. Si on veut pas étudier, on n'étudie pas.
Si un élève d'avocat, il a besoin d'aide ou quoi, il pourra avoir des cours supplémentaires.
Bah, parce que son père est avocat et qu'il gagne beaucoup plus d'argent que l'autre père qui est ouvrier, qui va pas réussir en fait.
Question intellectuelle, on a tous nos difficultés et nos facilités, donc je trouve que mettre tout le monde dans le même sac, bah, c'est injuste.
Mon cousin a été refusé dans une école parce que son nom de famille, c'était Nicolo ou Boulongo ou un truc comme ça. Mais c'était un nom typé africain alors qu'il est belge, enfin mi-belge et mi-rwandais, congolais, c'est un mix. Et on l'a refusé alors qu'il était en tête de la liste d'attente. Et on a pris un pur belge et c'est une injustice pour moi.
On leur a quand même demandé ce qu'ils feraient s'ils avaient une baguette magique.
Si j'avais une baguette magique, j'aurais supprimé les différences entre les élèves.
Mon vœu, ce serait, vu que j'étais petite, j'étais une victime, de changer la personnalité des gens, leur intérieur, et de les rendre beaucoup plus forts.
Si j'avais une baguette magique, bah, je choisirais qu'il y ait justement une inégalité scolaire par rapport aux classes des élèves. J'aimerais que la baguette magique puisse faire que tout le monde soit peut-être pas à la même classe sociale, mais qu'on voit tout le monde de la même manière et qu'on oublie en fait tous les préjugés ou les stéréotypes ou les clichés qu'on a eus, enfin qu'on les efface pour qu'on puisse vivre et apprendre ensemble.
Monia, quelle conclusion apporteriez-vous à cette émission ?
Mais l'égalité doit être l'objectif. Le chemin ne peut pas être l'égalité. Donc je m'explique. On a des inégalités en société. On veut tous une société où on est plus égaux. C'est très bien. Mais si on dit, alors pour être tous égaux, on va tous se donner la même chose. Mais c'est faux, puisqu'on ne part pas tous de la même case départ. Donc on doit utiliser l'équité pour atteindre cette petite égalité à laquelle on aspire. Donc c'est vraiment toute la différence. Vous arrivez en face de moi, vous êtes dans ma classe, vous n'avez pas les mêmes chances. Vous n'avez pas les mêmes bagages, vous n'avez pas le même cartable. Comment je fais? Eh bien, j'essaye de compenser ce que la vie vous a donné. Je fais ce que je peux pendant 50 minutes. Je compense et je vous fais avancer tous. Parce qu'il y a une chose qui est claire, la seule chose qui est commune à vous tous, c'est que vous allez tous avancer sur votre chemin. Il est personnel, il est différent, mais vous allez avancer. Vous n'allez pas stagner. Mon travail est de vous faire avancer, de vraiment intérioriser le fait que l'on avance sur son chemin. Et ensuite, eh bien, ça gommera un minimum les inégalités. Mais ça les gommera, pas les accentuer comme on fait maintenant. C'est toute la différence.
Merci Monia pour cette réponse complète, mais également d'avoir été présente avec nous pour cette émission. Vous nous avez été d'une grande aide. Je tenais également à remercier les écoles de la Providence de Woluwe, de la section technique et les Ursulines de Kuckelberg, leurs professeurs et sous-directrices, Dominique Lecomte, Morgan Skiltz, Laurence de Ruder et bien entendu les élèves de 3 et 4e secondaire. Cette émission a été réalisée par les étudiants de Saint-Louis, Louane Lecomte, Hélène Serin, Salima Tafranti, Clémentine Vasseur, Florian van der Stickelen dans le cadre de l'atelier radio dirigé par Flavien Gillier et Marie-Ève Merckx pour le projet Bruck Citizen.